Donc la vente à la base était éphémère de 3 jours. Sauf qu'en fait, on a vendu 7000 produits en 3 jours.
On a West France qui nous appelle, on a RMC, on a BFM TV, l'équipe, M6. Enfin, vraiment, ça se bouscule.
Bonjour à tous et bienvenue sur Serial Entrepreneur, le média où la parole est aux entrepreneurs. Je m'appelle François Allais, je suis le créateur de ce média et je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Avant de vous en dire un peu plus, sachez que le podcast sera désormais plus actif sur YouTube. Je vous invite d'ailleurs à vous abonner à la chaîne sur youtube.com/c/serialentrepreneur avec un S. La raison est qu'il y aura de plus en plus d'épisodes entièrement vidéo. Si vous m'écoutez sur Apple Podcast, il est également important de laisser une note pour soutenir mon travail. Et donc pour ce 17e épisode, je suis parti à la rencontre de Maëlys et Mathias Lucot, les cofondateurs de Brest Club. Brest Club est une marque de prêt-à-porter et accessoires inspirés de la plus belle région de France, la Bretagne. Dans cet épisode, on aborde de nombreux sujets, leur histoire, de leurs études à l'entrepreneuriat, leur première marque de prêt-à-porter, également la stratégie chez Brest Club, c'est-à-dire le fait de créer une marque 100% digitale, ensuite d'être distribuée dans de nombreux points de vente, puis enfin ouvrir des boutiques physiques. On va également aborder la fois où ils ont vendu plus de 7000 produits en 3 jours. On va également parler du fait d'entreprendre quand on est en couple. Leurs rencontres les plus inspirantes, mais également leur futur. Je vous préviens avant d'écouter cet épisode, leur histoire est faite de péripéties, de rebonds et d'adrénaline. Et je pense qu'elle méritait d'être racontée et mise en avant. Je vous souhaite une très bonne écoute. Et moi je vous donne rendez-vous en janvier pour un nouvel épisode. Ciao! Je suis très heureux d'être avec Mathias et Maëlys Lucot, fondateurs de Brest Club. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement?
Ouais, je commence. Donc moi, je suis Maëlys Lucot. J'ai tout juste 28 ans et je suis la co-gérante actuelle de Brest Club. Je gère toute la partie logistique, administrative, service client et communication de la marque.
Et donc moi c'est Mathias Lucot, donc j'ai 30 ans, je suis le créateur de la marque Brest Club. Je gère tout ce qui est création graphique et production au sein de la marque.
Très bien. Moi ce qui m'intéresse c'est avant d'entreprendre, quelles ont été vos différentes expériences ?
Alors, moi, j'ai fait des études dans la communication. J'ai un BTS communication. J'ai poursuivi par une licence, toujours en communication, spécialisée dans les relations presse et relations publiques. Et ensuite, j'ai terminé par un master spécialisé dans le marketing du luxe, qui ne m'a pas du tout plu. Et voilà, j'ai commencé ma vie professionnelle chez Princesse Tam Tam. J'étais chargée d'image et d'édition. Donc, je gérais sur le pôle communication tout ce qui était lié à la presse et aux campagnes de publicité.
Et moi, du coup, j'ai un bagage graphique. Donc, j'ai une licence en design graphique. J'étais graphiste freelance sur Paris et en même temps en alternance dans une boîte d'événementiel sportif. En fait, la plus grande course de chiens de traîneau d'Europe, ce qui est un peu paradoxal de Paris. Et sinon, j'étais graphiste freelance plutôt dans le milieu du prêt-à-porter. Donc chez Sandro et Princesse Tam Tam. Et j'ai créé Brest Club en 2016, suite pour alimenter en fait le book, mon book de graphiste freelance. Okay. C'est parti de là en fait la marque.
Très bien. Justement, on va en parler justement de l'histoire de la marque. Ça a été quoi le déclic de la création de Brest Club? Il y a aussi une marque juste avant qui a été créée, est-ce qu'on peut en parler?
Il y a plusieurs marques en fait, qui ont été créées. J'ai commencé mon parcours professionnel chez Nordnet en tant que graphiste. Et il y a un commercial qui est venu me voir entre guillemets, pour monter une marque de fringues régionaliste sur la thématique du Nord-Pas-de-Calais. Donc on a élaboré cette marque de la conception, de la conception à la réalisation graphique. Mmh. On a lancé les premières impressions. Ça s'est pas très bien fini puisqu'en gros, il m'a évincé au moment du lancement. J'étais encore étudiant à l'époque. Donc du coup, c'était de la main d'œuvre facile et peu chère, on va dire ça comme ça. J'ai accusé un peu le coup. Ensuite, j'ai rejoint Maëlys sur Paris. Et à ce moment-là, j'ai monté une marque qui s'appelle Gast Brest Touch. Où c'était vraiment un esprit revanchard, en fait, qui m'a poussé à continuer à faire ça.
Et légèrement chauvin aussi.
Et légèrement chauvin, oui. Effectivement. Et puis, bah, il y avait eu un petit succès de la marque du Nord, donc je savais qu'entre guillemets, il y avait matière également avec la Bretagne. On a lancé le site, on a eu une couverture presse par le Ouest France, assez grande par rapport à notre existence, on avait 10 minutes d'existence. Donc okay. On s'est retrouvé le lendemain matin on avait une pleine page en édition Bretagne, et on était, je sais pas si tu vois, les petites affiches dans les bureaux de tabac, avec en gros marqué Gast, la nouvelle marque bretonne.
Okay.
Autant dire que les ventes ont décollé directement. Super, on était un peu dépassé par les événements parce que c'était vraiment de la côté, quoi.
Oui, on faisait ça, enfin, c'était parallèle à notre job. Voilà, fallait qu'on aille bosser le matin. On a vu ça, on a vu les ventes qui s'emballaient complètement sur le site. À l'époque, on n'avait aucune machine de production, donc on sous-traitait toute la production et on n'avait aucune idée de comment on allait faire. On n'avait même pas d'enveloppe pour envoyer les produits, on n'avait même pas de suivi des commandes. On notait tout sur un petit carnet, enfin, c'était un peu la panique. Bon, on était hyper contents, mais c'était un peu la panique parce que c'était pas du tout destiné à monter comme ça aussi vite. Donc, hyper contents. Et puis après, bah, la chute.
La chute. Ouais. Le lendemain, ma mère qui m'appelle. Donc, ma mère habite en Bretagne et me dit, texto, qu'est-ce que t'as fait comme connerie ? Alors, je comprends pas très bien parce que bah, je me sentais coupable de rien.
Pour
entre
une
guillemets.
Fois, on avait...
Et en fait, il y avait un huissier de justice qui était chez mes parents pour... une mise en demeure pour contrefaçon de marque. En fait, tout bonnement, on avait déposé la marque à l'INPI. On était novice en la matière et on n'avait pas fait de recherche d'antériorité ou on n'avait pas connaissance, du moins, que s'il y avait des marques avec un nom proche, on pouvait être embêté. Et en gros, il y avait une marque, en l'occurrence, qui s'appelait Gast. Nous, c'était Gast Breast Touch, mais c'était trop proche. Donc, très gentiment, ils nous ont demandé d'arrêter. Ou du moins de changer de nom. Alors c'était un peu compliqué parce que nous c'était vraiment du bricolage, donc pour nous changer de nom, d'une, c'était financièrement c'était compliqué parce qu'on venait de déposer le nom de marque, on avait acheté le nom de domaine, tout changer du jour au lendemain alors qu'on avait une couverture presse, c'est aussi un peu bizarre, et puis on n'était pas du métier.
Et puis surtout, on a pris peur parce que, quand même, le fait d'avoir un huissier de justice chez les parents, mine de rien, on s'est dit, c'est pas du tout le but de se créer des ennuis avec cette marque-là. C'est une marque plaisir, c'est un à côté par rapport à nos boulots. Donc, on s'est dit, l'idée, c'est pas du tout de se mettre dans une situation qu'on va regretter. Donc, on a juste préféré tout arrêter. On a envoyé les t-shirts qui avaient été commandés, on a tout stoppé. Et puis, on s'est dit, c'est pas grave, c'est pas pour cette fois. Et on rebondira plus tard ou pas. Et voilà, donc ça s'est fini comme ça. Et puis, 2 mois après, on a pris la décision de rentrer en Bretagne. Pour vraiment des questions personnelles, de se dire qu'on avait envie de se rapprocher de notre famille et de nos amis. Et donc, on est rentré sans trop de projets professionnels parce qu'on savait tous les deux que vu notre cœur de métier, ça allait être un peu plus compliqué de trouver du boulot que sur Paris, et particulièrement du boulot qui nous plaît. Donc, on est rentré. Moi, j'ai trouvé un job un peu alimentaire dans la communication, toujours dans le prêt-à-porter. Ça m'a pas du tout plu. Mmh. Et parallèlement, Mathias cherchait du boulot. Et puis, j'ai bien senti qu'en fait, il cherchait sans trop chercher, mais que par contre, il était en train de monter un projet à côté dont il me parlait pas vraiment. Voilà.
Donc... En fait, moi, je cherchais, mais c'est vrai que ce qui m'attirait, c'était quand même le prêt-à-porter. Ce que j'avais pu vivre sur Paris, en fait, avec tout ce qui est lookbook, que je retrouvais pas ici. Clairement, il n'y a que Beaumanoir et à l'époque, ils ne cherchaient pas. Enfin, dans les parages, en tout cas. Donc, on se retrouvait à postuler un peu à droite, à gauche, beaucoup d'agences de com, ce genre de choses. Et je me suis dit que finalement, si je ne trouvais pas chaussure à mon pied, fallait, entre guillemets, que je monte mon projet. J'avais gardé encore mes jobs de free sur Paris, donc j'avais quand même un bagage sécure en termes de finances, on va dire ça comme ça. Et donc, j'ai monté dans mon coin... le projet Brace Club avec la CCI Mais vraiment indépendant de Maïlis, quoi.
C'est ça. Ouais. En fait, là, l'idée, c'était de se dire ce qui a fonctionné avec la première marque chez Gast, c'était les visuels qui ont plu. Donc, c'est qu'il y avait quelque chose. Et je pense qu'effectivement, il y avait l'esprit revanchard. Et cette fois-ci, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, j'ai envie de le remonter, mais de manière professionnelle. Donc, j'ai envie de faire les choses correctement.
En fait, il fallait structurer. C'était juste ça, en fait, qui était le plus important. En fait, on avait vraiment fait les choses à l'arrache. De Paris, c'est-à-dire que j'avais créé des visuels, j'avais fait des mock-ups, j'avais monté un petit site, on avait créé une page Facebook, on avait balancé ça comme ça, les copains nous avaient aidés pour le shooting, et puis...
Pour le fun, sans objectif particulier.
Voilà. C'est ça. Et là, moi je lui ai dit, écoute, si tu veux remonter le projet, pourquoi pas, après il est hors de question que ça se refasse comme ça s'est fait, l'idée c'est quand même que tu puisses en tirer un revenu, donc on va faire les choses correctement, et puis il a monté ça tout seul avec l'idée que je sois... le parachute financier, entre guillemets, du coup, puisque moi, j'avais trouvé un contrat. Donc voilà, c'était l'idée de base, qui n'a pas tenu longtemps, mais c'était l'idée de base.
Ok, et comment vous avez fait pour trouver vos premiers fournisseurs, justement pour créer vos produits
Alors, fournisseurs textiles, par exemple.
Ouais, par exemple.
Ouais, en gros, à la base, t'es une jeune boîte. J'avais envie quand même de gagner ma vie, c'était un peu l'épée de Damoclès qui est comme tout entrepreneur qui démarre, quoi, de se dire combien de temps je vais durer sans me payer. Ouais. Donc tu te dis bon, tu peux pas prendre le haut de gamme dès le départ, faut pas prendre de la merde non plus. Donc en fait j'avais trouvé un fournisseur middle class, on va dire ça comme ça. La banque m'a financé à hauteur je crois de 3 ou 4 000 euros. Ce premier stock, on démarre, on a une semaine ou deux d'activité et très vite je m'aperçois en fait que les t-shirts tiennent pas la route, qu'en gros les impressions sont pas top dessus, liées à la qualité du coton, que les coupes sont pas franchement très modernes. Donc je dis à Maëlys, là faut que je change parce que sinon on va jamais réussir à fidéliser. Ok, les visuels vont plaire, les gens vont commander une fois, ils vont voir que le t-shirt tient pas et puis derrière on les reverra pas, quoi. Donc, on n'avait pas un sou en poche et du coup, personnellement, j'ai racheté des stocks chez un fournisseur haut de gamme pour mettre toutes les chances de notre côté.
Qui est toujours aujourd'hui notre fournisseur. On a vraiment, à la base, on était parti sur du t-shirt publicitaire pour une marque de prêt-à-porter. On s'est rendu compte que y avait un truc qui ne collait pas. Donc, on s'est tourné vers un fournisseur vraiment de qualité prêt-à-porter et qui permet effectivement de ne pas faire de la vente en one-shot, mais bien que les gens recommandent chez nous. Et ce que n'a pas dit Mathias, c'est qu'à la différence de la première marque qu'on avait montée, on a fait le choix cette fois-ci d'investir directement dans nos propres machines d'impression. Enfin, à l'époque, une seule d'ailleurs. Pour pas avoir à sous-traiter l'impression et pouvoir garder ça en interne directement chez nous. Donc la qualité d'impression, au moins, on la maîtrisait à défaut de pouvoir maîtriser la qualité du t-shirt au départ.
En fait, le choix d'avoir investi dans les machines également de production, c'est parce qu'en fait, j'avais en tête les deux échecs du passé. Et je savais que, en gros, le succès de la marque, c'était pas que mes visuels ou mon travail, c'était également la notoriété grâce à la presse. Et donc, on a eu deux coups de bol sur les deux premières marques où c'est venu très rapidement, mais c'était pas forcément le cas sur celle-ci. Donc, on avait cette idée aussi de parachute d'activité, c'est-à-dire que si la marque ne décollait pas, on pouvait aussi ouvrir les machines aux particuliers, aux professionnels. Pour de la personnalisation textile, tout simplement. Donc, ça permettait de se lancer avec deux activités qui pouvaient, durant l'année, prendre le relais par rapport aux activités.
Une sorte de petit plan B au cas où.
C'était complètement l'idée.
C'était l'idée, ouais.
Ok. Et quand vous avez eu vos premières ventes, Brest Club, qu'est-ce que ça vous a fait?
Bon, moi, je me rappelle, on avait la notification via le téléphone et. Et quand ça vibrait dans la poche, on était content quand c'était une notification.
On se disait, une commande.
Et un peu déçu quand c'était un pote qui t'envoyait un message.
C'est ça.
Ça a duré quand même assez longtemps. Hein.
Ouais, et puis il faut savoir qu'à ce moment-là, on avait été accueillis par la CCI de Rennes. Donc on était dans un petit bureau de 9 mètres carrés où on avait un bureau, une imprimante et des étagères avec des t-shirts dessus. Et c'est vrai qu'on était presque là à attendre la commande. Et puis dès que ça vibrait, on se disait, oh cool, on va pouvoir imprimer un t-shirt. Bon, c'est vrai que maintenant on n'en est plus là, mais c'était vraiment la fierté dès que ça vibrait de se dire allez, c'est bon, on en a vendu un, on va pouvoir se mettre au travail.
On était vite dépassé, 10 commandes par semaine, c'était la.
On était dépassé. On avait l'impression que c'était la fin du monde.
Et à quel moment vous vous êtes dit que ça pourrait le faire? Et après, t'as rejoint le projet
Ouais, Maëlys. C'est ça. Mais je pense que c'est moi en premier qui me suis dit que ça pourrait le faire. En fait, donc, le deal, c'était effectivement que je sois le parachute financier. Moi, j'ai vu qu'il y avait un énorme potentiel parce que les ventes se sont quand même développées assez rapidement. On a eu rapidement un article dans l'Ouest France, on a eu rapidement quelques coupures de presse. Et du coup, il y a des distributeurs qui ont commencé à nous approcher avant même que moi, j'ai rejoint le projet. Et voilà, et en fait, je me suis dit, si tout ça est arrivé sans rien faire, je pense que si on fait quelque chose, il y a vraiment moyen que ça marche. Donc en fait, quand mon contrat s'est terminé chez Beaumanoir en août, il me semble, on m'a proposé un CDI. Donc Mathias m'a dit, prends-le. Mes parents m'ont dit, prends-le. Et moi, je suis allée au rendez-vous et j'ai dit, non merci, j'en veux pas, j'ai d'autres projets en tête. Et donc, je suis rentrée, j'ai dit à Mathias, bon, bah, j'ai refusé le CDI, donc bah, maintenant, il n'y a plus le choix, il faut que je travaille avec toi. Il n'était pas hyper, hyper content sur le coup. Mais voilà, je lui ai dit, bah, voilà ce que j'ai en tête. Moi, je vais t'aider. Je vais reprendre la partie communication. Je vais gérer les réseaux sociaux. On va booster tout ça. Et puis, je vais pouvoir t'aider sur toute la logistique. Et de toute façon, si on veut en vivre, il va falloir mettre un coup de boost. Et tout seul, tu n'y arriveras pas. Donc, non pas qu'il n'ait pas, les épaules pour, mais...
L'activité montait de
c'est
sorte
ça,
qu'il
ouais,
fallait
voilà, y a pas, plus y a, il n'avait pas forcément toutes les compétences. On s'est rendu compte qu'on avait deux profils qui étaient très compétents. Complémentaire. Et que donc voilà, il y avait de l'activité pour nous deux, donc c'est pour ça que j'ai rejoint le projet contre l'avis général.
Moi j'étais totalement contre, même, enfin j'étais flippé ouais. Parce ouais. qu'en fait il y a tout le contexte aussi. Il faut savoir que quand on est rentré de Paris, on venait de changer d'appartement sur Paris, et quand t'annonces à tes parents, que ce soit tes parents ou mes beaux-parents, qu'on quitte Paris, que nos études viennent de s'achever, qu'on n'a jamais eu de CDI, qu'ils ont dépensé des sous pour nos écoles.
Ouais.
Je peux t'assurer que voilà, ils te soutiennent parce que c'est tes parents, mais ils n'emmènent pas large, et ils ne sont pas très contents. Quoi.
Ouais, ouais,
donc en fait, quand elle me dit, bah, moi aussi, le CDI, je le refuse et je te rejoins. Alors je croyais en mon projet, mais j'avais pas non plus la certitude de l'avenir.
Ouais,
donc
plus les deux premières expériences peut-être qui te.
Bah il y a ça aussi, voilà. En fait, je sais que
douter,
voilà, dans le milieu du prêt-à-porter, que tu peux être gigantesque ou tu peux être minuscule, les risques sont les mêmes en termes de parasites, on va dire ça comme ça, de personnes qui veulent venir récupérer des choses ou qui pensent que tu atteins à leur activité. Donc en fait, il y a tout ça qui est cumulé.
Oui, il y a quand même un sacré nombre de risques. Après, je pense qu'on a toujours, été comme ça dans notre vie perso et dans notre vie pro tous les deux. C'est que moi, je suis un peu la tête brûlée et je fonce et c'est pas toujours la bonne solution. Et Mathias, lui, est beaucoup plus prudent et c'est lui qui tempère un peu. Bon là, il se trouve qu'il a pas eu le choix parce que de toute façon, quand il m'a dit prends-le, j'avais déjà refusé. Donc maintenant c'était comme ça, fallait y aller. Donc on a mis les mains dedans et puis.
Non, et puis avec du recul, c'est la meilleure chose. Enfin, c'est la meilleure décision, je pense, qu'on ait prise au niveau entrepreneurial, parce que ça nous a permis de nous développer très rapidement, parce qu'on est resté, je crois, 6 mois en pépinière d'entreprise, et au bout de 6 mois, on ouvrait la première boutique.
Ouais, okay. Ça a bien...
Enfin, 8 mois, le temps de faire les démarches.
Ouais.
Justement, on va parler des grandes étapes de Brest Club.
Ouais.
Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu tout ça?
Ouais. La première grande étape après évidemment le lancement de la marque, c'est effectivement la boutique que vient d'évoquer Mathias. Mmh. En fait, c'est notre cabinet comptable qui est venu vers nous et qui nous a dit les petits jeunes, c'est bien ce que vous faites dans votre bureau de 9 mètres carrés, mais là, si vous voulez aller plus loin, il va falloir sortir de là et puis battre des ailes et s'envoler. Donc on a pris la décision d'ouvrir une boutique dans le centre-ville de Rennes. On savait que la marque n'avait pas suffisamment de légitimité pour ouvrir une boutique en nom propre avec uniquement des produits Brest Club. Mais comme on l'évoquait tout à l'heure, on avait nos machines de production et on s'est dit on va essayer d'ouvrir un lieu dans lequel on va distribuer notre marque, mais on va aussi proposer aux professionnels et aux particuliers d'utiliser nos machines, entre guillemets, pour pouvoir développer leurs propres projets. Donc on a accompagné des jeunes marques en lancement, comme nous on a fait, des particuliers, des pros, voilà. Donc on a ouvert cette boutique en avril 2017. Donc vraiment tout juste un an après avoir lancé la marque. Comme effectivement la marque avait fait un très bon démarrage, les banques nous ont suivis sans problème, parce que là, c'est vrai qu'en termes d'investissement, un pas de porte dans le centre-ville de Rennes, des nouvelles machines, un aménagement, du stock, enfin voilà, c'était quand même un gros risque financier. Après, il était mesuré parce que le cabinet comptable avait fait tous les prévisionnels nécessaires, et effectivement, on voyait que c'était pas insurmontable, donc c'est pour ça qu'on l'a fait.
C'est passer du digital au physique aussi.
C'est ça. Et puis surtout, c'est apprendre des nouveaux métiers, parce que pour le coup, nous, le commerce, c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas du tout.
Puis là, t'es en vente directe.
Ouais,
en plus,
c'est ça. C'était vraiment une nouvelle.
En un an, je pense qu'on a endossé plusieurs casquettes, parce que moi, je me rappelle quand on m'a livré la première machine à la pépinière d'entreprise. En gros, c'est des machines qui ont un certain coût. Le mec arrive, il est tout seul, c'est hyper lourd, faut la monter à l'étage. Donc déjà,
ça passe pas les portes.
Ça passe pas les portes. Je connais le coup, lui, il les manipule comme un bourrin. Je me dis wow. Et qu'est-ce qui se passe? Il installe tout. Une heure de formation, il me serre la main, il s'en va. Et moi, je me retrouve face à la machine en n'ayant jamais imprimé un seul t-shirt. J'avais déjà été dans les ateliers à Paris qui avaient ce genre de machine, donc j'avais vu faire, mais sans réelle maîtrise. Ensuite, y a l'ouverture de la boutique, où là, il faut être commerçant. Alors, c'est un autre métier. Ça s'appréhende différemment que le métier d'imprimeur. Et en plus, on n'avait pas la casquette d'imprimeur classique. Un mec qui se dit, moi, je fais du marquage textile, et puis c'est comme ça que ça se passe. Nous, avant tout, on est créateurs de marque. Donc, c'était peut-être la force qu'on a eue par rapport aux autres. C'est qu'on avait cette appréhension global en fait du marché. Aujourd'hui, on travaille avec beaucoup de jeunes marques qui veulent se lancer, et c'est vrai qu'on est passé par là, donc c'est notre force.
Ça, c'était donc l'ouverture de la boutique, ça a été la plus grosse étape, parce que je pense que ça a marqué un vrai tournant aussi dans le développement de la marque. C'était une vitrine, c'était beaucoup plus de légitimité aussi pour la marque. Donc ça a été une grosse étape. Je pense que l'autre grosse étape qui a vraiment marqué un tournant pour la marque, c'est le Brésisou. Je pense qu'on peut pas le nier.
Ouais.
C'est un t-shirt qu'on a sorti suite à la victoire des Bleus pendant la dernière Coupe du Monde, qui nous a valu une couverture médiatique nationale complètement hallucinante parce que tous les médias effectivement ont fait un relais de ce produit sans même qu'on s'y attende. Je pense qu'on n'a pas du tout compris ce qui s'est passé pendant ces 48 heures-là. Après, pour ceux qui ont suivi l'histoire, effectivement, on a été attaqué derrière pour ce t-shirt là donc ça a été un gros coup de massue.
Explique un peu le t-shirt, justement. C'était
En fait, c'était l'idée, c'était de rendre hommage à l'équipe de France. Donc Mathias a sorti un t-shirt qui était on va dire inspiré du maillot de 98.
C'était revisité en mode Bretagne.
Ouais, c'est ça. On a essayé de revisiter un peu le maillot de 98, mais à la sauce bretonne, et puis identitaire, comme on le fait sur chacun de nos produits. Bon, il se trouve que ça se passe pas comme ça, on fait pas ce qu'on veut, donc on s'est fait attaquer pour ce produit là sauf que on en avait vendu un sacré paquet. Ça a été très compliqué en termes d'organisation, en termes de logistique, parce que avant qu'on se fasse attaquer, on avait déjà la problématique de on n'est pas capable d'assurer la production d'autant de t-shirts en si peu de temps. L'expédition, la poste nous a lâchés. Enfin, vraiment, ça a été 48 heures d'énormes galères de se dire mais comment on va réussir à sortir ces t-shirts-là.
Ouais, je pense que c'est l'événement le plus marquant psychologiquement, je dirais même.
Ouais.
Parce que ça peut mettre en péril l'entreprise.
Complètement, en fait, des 3 ans de la boîte. En fait, si tu veux, on rentre de vacances. On avait déjà sorti un produit avec une seule étoile, donc ils ont gagné. Donc je dis à Maëlys, je le remets avec 2 étoiles. Et là, on a par chance un distributeur entre guillemets qui travaille au point, qui m'appelle et qui me dit j'ai vu ce que t'as sorti, est-ce que je peux en parler dans le point. Je dis pas de souci, vas-y.
Ah puis surtout trop cool, vas-y à fond Moi,
je m'attendais à un support papier. En fait, lui, il s'occupait du digital, et donc en fait, il le sort quasiment instantanément. Vers 19h. Moi, j'avais sorti le t-shirt à 18h. On rentre. tranquillement à la maison. Et là, bah, je te parlais des notifications de tout à l'heure dans, dans la poche.
Bah là, on a coupé les téléphones.
C'est quoi ce bordel? Et puis, en fait, très vite, en fait, on passe de 3, 4, 5 à 10 commandes par minute. On se dit, wow, comment on va faire? On se dit, on va avoir du boulot le lendemain.
Mais le site ne va jamais tenir. Enfin, on voyait le truc, on s'est dit, mais ça ne va pas le faire. Et puis, en final, on a quand même pris un peu peur. On s'est dit, bon, bah, ce qu'on fait, c'est que là, on éteint les téléphones, puis on verra ça demain. Et puis, le lendemain, on rallume les téléphones, ouais. Et puis on voit la...
On était pas loin des 500 commandes dans la nuit. Donc, je commence à flipper. Je me dis, parce qu'en fait, moi, à l'époque, on n'a qu'une seule machine, il me semble. Donc, je me dis, mais c'est pas possible. Du coup, j'appelle mes beaux-parents pour trouver une solution, en fait... sur toute la logistique, ouais, pour qu'ils puissent nous aider. Quoi. Et je dis à mon beau-père, je me rappellerai toute ma vie, je pense, de la petite réflexion, je lui dis, voilà, j'arrête, je coupe.
On l'enlève, quoi. On supprime le produit du site.
Maëlys, elle a les larmes aux yeux. On est stressé parce qu'on ne sait pas comment on va pouvoir faire pour honorer les commandes dans un temps raisonnable. Et il s'approche, il me dit, tu n'auras peut-être qu'une seule fois cette chance dans ta vie de faire un gros coup, donc vas-y. Moi, je dis, bon, ok. Donc du coup, moi ça me rebooste, on décide de fermer la boutique temporairement, j'appelle des collègues sérigraphes et je leur dis, est-ce que tu peux me prendre en urgence une quantité, je dirais, de 1000 t-shirts dans les 10 jours. Je dis, pas de souci, on fait comme ça, sauf qu'en fait les ventes la vente à la base était éphémère de 3 jours, sauf qu'en fait on a vendu 7000 produits en 3 jours.
Parce que ce que dit pas Mathias, c'est que entre temps, là, pendant qu'on cherche des solutions, on a Ouest France qui nous appelle, on a RMC, on a BFM TV, l'équipe, M6, enfin vraiment ça se bouscule. Je sais même plus, et pourtant moi j'ai fait 5 ans d'études dans les relations presse, etc. Mais alors là je suis dépassée, enfin c'est même plus dépassée.
C'est quand ça t'arrive que...
C'est ça, et là j'ai envie de me mettre dans un trou, d'attendre que ça passe et qu'on me laisse tranquille. Quoi.
En fait, c'est un peu de ma faute, parce qu'en fait en gros moi je suis pas la presse je maîtrise très mal, et en fait il y a une jeune femme qui m'appelle, et c'était moi, entre guillemets le standardiste de l'époque, qui me dit je fais partie de l'agence France Presse. Moi, l'agence France Presse, je pensais juste que c'était un journal, donc j'y vais gaiement, pas de soucis, je te donne toutes les informations qu'il faut. Ah bah ouais, puis sauf que dans l'heure, c'était...
Et là, en fait, moi, j'avais dit, on arrête d'en parler, puis il raccroche, je lui dis, c'était qui? Il me dit, l'agence France Presse. Et je le regarde, je lui dis, et il comprend pas, je lui explique, il me dit, oh merde. Ouais, donc là, c'était reparti, et voilà. Après, très honnêtement, avec le recul... Effectivement, une couverture médiatique comme ça, on n'en aura jamais deux. Et c'était très bon à prendre. C'était une expérience qui était hyper formatrice. Donc, on ne regrette pas du tout. Mais c'est vrai que ça a été un ascenseur émotionnel extrêmement fort.
Voilà, on est devenu une casquette supplémentaire. On est, je pense, expert en gestion de crise. Parce qu'il faut appeler le sérigraphe toutes les heures pour lui dire, non, en fait, le volume, ça ne sera pas ça. Ça sera 500 de plus, 500 de plus, 500 de plus. La poste qui te lâche. Sachant que nous, il n'y a rien d'automatisé à l'époque. Donc en gros, la poste qui nous dit, vous avez un trop gros volume, il faut faire une analyse financière de votre boîte.
Ça prend 15 jours.
Ça prend 15 jours. Je dis, non, moi, mes clients, c'est 15 jours, c'est la promesse chez Press Club. Donc je dis, non, il faut trouver une autre solution. Je missionne mon beau-père qui fait le tour de tous les bureaux de tabac, de presse, tous les bureaux de poste de l'agglomération rennaise pour aller récupérer je ne sais plus combien de milliers de timbres.
15 000 timbres pour pouvoir les coller un par un sur les enveloppes qu'on avait écrit une par une à la main. Donc ça, c'était ma mère qui était depuis 3 jours, jour et nuit, à écrire les enveloppes.
Et après, il fallait aussi assurer un suivi. Donc, coller tous les stickers de suivi, noter le nom à la main. C'était vraiment...
Ça a été quand même un gros... On peut le dire, un beau bordel. Et puis, le jour où le sérigraphe a tous les t-shirts, on s'apprête à lancer la production, toutes les enveloppes sont prêtes, les timbres sont collés, on reçoit un courrier.
Je suis à la boutique et en fait, on avait gardé juste le 44 en production parce qu'il y avait un peu moins de volume. Donc, gris fermé, et il y a le facteur qui toque à la porte et qui me dit, vous avez un recommandé. Donc, je regarde et j'ouvre instinctivement. Et là, je regarde et je dis, wow. Donc, j'appelle Maëlys. Je lui dis, là, on est dans la merde. Et là, ça me rappelle les deux précédentes expériences.
Tu te dis,
c'est un autre level quand même.
Ça fait 5 jours que tu dors pas parce que t'es là en train de gérer les choses. Donc voilà, moi j'ai les larmes qui
montent. Et puis c'est ça, t'as plus les nerfs en fait. Arrivé à ce stade-là, je pense qu'on avait tout donné en termes de, d'énergie, en termes de... Enfin, tout. Et là, on avait vraiment plus les nerfs de, d'assumer encore une difficulté supplémentaire. Donc ouais, effectivement, je pense qu'on s'est écroulé, on s'est écroulé tous les deux.
Mais en fait, faut faire, faut être très rapide parce qu'en fait, mon sérigraphe m'avait appelé le matin en me disant c'est bon, là on vient de finir la déballe, donc on lance à 10h la production et par chance le facteur est arrivé avant, donc je l'appelle, je lui dis bah t'annules tout. Ouais. Il me dit pourquoi? Bah parce qu'en fait, je lui explique un peu les choses. Ouais. On nous demande d'arrêter, donc j'ai envie de régler les problèmes avant de lancer quoi que ce soit. Clairement. Je vais
on savait pas vraiment quel était le risque, ce qu'on devait faire, etc. Donc, n'ayant pas de visibilité, on a mis tout en stand-by. On s'est rejoint chez mes parents qui étaient un peu le QG parce qu'on avait étalé toutes les enveloppes partout dans le salon. Enfin bref, on se rejoint là-bas. Je pense que nous, à ce moment-là, on capitule clairement. On va dehors, on s'effondre, on attend que ça passe. Pendant ce temps-là, heureusement, voilà, il y avait mon frère, mes parents, tout ça qui étaient là, qui ont, eux, appelé des cabinets d'avocats, des connaissances, des ceci, des cela, pour avoir des avis. Et donc, on se retrouve en entretien téléphonique l'après-midi même avec un gros cabinet d'avocats qui nous dit... honnêtement, là, c'est à l'appréciation d'un juge. Faut compter quasiment un an de procédure si vous voulez vraiment aller vous battre. Et si vous perdez, vous coulez tout. C'est terminé.
En fait, à l'époque, la boîte, elle a à peine 2 ans. Ouais. Autant dire qu'on a un petit chiffre d'affaires qui se développe bien, mais quand même petit. Et en gros, quand on estimait l'amende qu'on pouvait prendre, on était à 2 fois le chiffre d'affaires de l'époque.
Puis là, ça peut impacter vos vies personnelles aussi.
Ah bah c'est ça, c'est clair.
Ah bah on perd tout.
Et puis on a le fait d'être en couple, on a tous nos deux dans le même panier. Donc effectivement, on perd la boîte, on perd tout. Et surtout, on s'est dit, est-ce qu'on est prêt à sacrifier les 2 ans de boulot acharné qu'on vient de fournir pour cette histoire-là? Non.
Pour un t-shirt, en fait, pour rebondir sur l'actualité, en fait, tout simplement.
Ouais, c'est ça.
On n'avait pas, en fait, quand on le sort, ce t-shirt-là, on n'a aucune idée en tête en se disant on va faire un gros coup marketing ou on va faire le buzz.
C'est l'idée à ce moment-là. Donc, on se dit franchement, tout foutre en l'air pour ça, ça vaut clairement pas le coup. Même si notre première réaction a été de se dire attends, on va pas se laisser marcher sur les pieds, on y va, on va se battre et puis après, on se dit, non, mais ça vaut pas le coup, en fait. Enfin, on va y passer un an à penser qu'à ça jour et nuit, autant passer à autre chose directement.
Voilà, on préférait mettre notre énergie ailleurs, créer d'autres collections. On crée déjà 2 collections par an, plus des t-shirts événementiels. Donc, on s'était dit, ça ne servait pas à grand-chose. Voilà, certes, c'était un gros chiffre d'affaires, puisque c'est 150 000 euros en 3 jours quand même. Donc, d'une année.
C'est-à-dire que là, le fait de renoncer, c'est rembourser les clients. Et puis, alors, vu le site qu'on avait à l'époque, c'est les rembourser un par un à la main. Donc, ça a pris énormément de temps. C'est du service client, mais à n'en plus finir jour et nuit. Des gens qui nous disent je reçois pas mon t-shirt, je comprends pas, parce qu'ils n'avaient pas vu la communication qu'on avait faite, ils n'avaient pas vu les remboursements. Nous, des remboursements qui sont passés à la trappe. Donc, vraiment, ça a
été. Tout en étant deux, du coup.
Tout en étant deux, c'est ça. Ça a été vraiment, vraiment hyper compliqué. Et puis, il faut ranger les 4000 enveloppes qui attendent dans le salon. Enfin,
en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu une couverture médiatique pour le lancement de ce produit. Donc, on va dire une couverture positive. Et on a eu la deuxième semaine une couverture sur notre annonce qu'on n'honorait pas les commandes et qu'on allait rembourser tout le monde. En fait, donc, tous les médias nous ont recontactés pour qu'on donne notre point de vue là-dessus, sachant qu'on ne pouvait pas citer la personne, et on ne le citera toujours pas, la personne qui nous attaquait. Donc du coup, là, tu n'as plus la force. Alors c'est cool de répondre aux journalistes quand tout va bien. Quand tout va mal, c'est un peu moins cool. Certains, en plus, avaient très peu de tact. En gros, on leur dit non, on n'a le droit de rien dire.
Ils faisaient quand même un article derrière.
Ils nous disaient clairement, c'est pas grave, j'irai me servir sur Twitter. Ouais. On a eu d'autres choses qui étaient complètement indépendantes de notre volonté. C'est-à-dire qu'on a eu une grosse solidarité de la part de nos clients. Donc il y a eu des manifestations devant... un siège à Paris, il y a eu des pétitions en ligne, il y a eu tout un tas de commentaires sur les réseaux.
Et puis alors là, ça nous a complètement dépassé.
Twitter s'est
enflammé. Nous, là, on était déjà au fond du trou, donc on avait juste envie que les gens nous laissent tranquilles, même si c'était hyper appréciable et ça nous a fait hyper plaisir de voir qu'il y avait un tel engouement. Mais clairement, nous, on avait juste envie que ça s'arrête, de passer à autre chose. Et voilà, donc c'est vrai que même nous, c'était dur à ce moment-là. Après, voilà, une fois qu'on avait pris la décision de pas se battre, on a fait notre travail de petite main de remboursement de tout le monde, de service client. Et puis, on est passé à autre chose en se disant, bon, bah voilà, cette étape-là, c'est terminé. On a, je pense qu'on a gagné un peu de sympathie dans le cœur des gens parce que bah, tout le monde s'est rangé du côté du petit pousset et pas du grand qui nous attaquait. Voilà, donc ça, finalement, ça a été quand même hyper positif sur ce point-là. Donc ça, ça a été une grande étape. Et puis, bah, l'étape suivante, c'est quand Mathias s'est dit, ben, j'en ai lancé un, je me suis fait attaquer, ben, c'est pas grave, je vais en relancer un deuxième, mais cette fois-ci, je vais faire en sorte de pas me faire attaquer.
En fait, j'avais, c'est un peu cet esprit revanchard, ouais. Comme ça. Par rapport à Gast, on lance Brest Club, et puis on avait testé avec Gast, Brest Club s'est abouti, bah, pareil, j'ai testé avec le Brésizou, et donc du coup, je me dis, je vais réussir avec le Brésizou 2.0, ouais. Donc en gros, je retravaille un visuel.
J'étais complètement contre, mais bon.
Je me rappelle en fait, à l'époque, on était que tous les deux toujours, on était en boutique, 18h30 à peu près, enfin ça allait fermer, et dans mon coin, en un quart d'heure, je bisouille un truc, j'envoie ça à mes beaux-parents, avant de l'envoyer à Maëlys. Mon beau-père me dit, bah c'est cool, je renvoie à Maëlys. J'inclus Maëlys dans la boucle et direct elle met Noé. Non, arrête tes conneries, c'est bon, Noël approche.
Une fois pas deux.
On va pas se faire. Enfin voilà, là on peut vraiment en pâtir si ça se passe mal à Noël. Noël c'est une période importante pour nous. C'est pas possible. J'essaie de me défendre comme je peux en disant là non, j'ai bien travaillé les choses. Là il y a rien du maillot, d'un maillot qui a pu exister. Là c'est vraiment 100% breton. Je pense que je le sens bien. Mon beau-père qui revient, enfin qui débarque à la boutique, qui me dit, allez, on va le faire. Du coup, Maëlys s'est dit, bon bah vous vous démerdez, mais je veux rien faire.
Moi, je veux pas le savoir. Bon bah au final.
Du coup, on le lance pareil vers 19. Non, je dis, bah je lance demain. Et mon beau-père me redit, il me dit, pourquoi attendre demain? Donc je dis, bon bah ok, ça me prenait 2 minutes de le mettre en ligne, donc je le mets en ligne. Je fais un post Facebook, un post Instagram. Et puis bah, le téléphone qui se remet à vibrer dans la poche. Donc là, on se dit wow. Sauf que là, on avait pris la décision de pas fermer la boutique. Donc du coup, on ouvre la boutique. Et le lendemain matin, une queue de je sais pas combien de personnes devant la boutique. Devant parce qu'en fait, ils voulaient pas louper cette édition en se disant je l'ai commandé en ligne. Vous m'avez remboursé parce que vous êtes fait attaquer. Si là, vous vous faites attaquer, je repars avec. Et
plus personne pourra me le prendre.
Et je vous le rendrai pas. Donc on avait la queue, je sais pas.
Ah, mais on avait l'impression d'être dans une boulangerie un dimanche matin. Quoi. Les gens faisaient la queue devant la boutique. C'était n'importe quoi. Surtout que pour le coup, on s'attendait pas du tout. On savait qu'effectivement, ça allait générer des ventes parce que bah, voilà, y avait des gens déjà de la première édition qui nous avaient dit nous remboursez pas, on vous soutient, etc. Donc on savait que rien que par esprit de soutien, on ferait des ventes. Mais honnêtement, on s'attendait pas à ça. On a vendu quasiment autant que la première édition. Et sauf que là, on a décidé de ne pas sous-traiter la production. Donc, on a tout géré nous-mêmes, en interne.
Ouais, parce qu'on avait, on avait un petit peu grandi. On avait embauché un imprimeur et on avait pris des locaux, en fait, à l'extérieur de Rennes, à Meulles. Bureaux, locaux, ateliers, quoi.
On avait une capacité de gestion du truc qui était beaucoup plus importante. Donc, ça nous a permis de le gérer en interne. Et voilà, et ça a été, encore une fois... une super expérience parce qu'on a le retour des gens, parce qu'en plus on était en boutique, donc les gens qui n'avaient pas pu nous rencontrer la première fois suite au premier Brésizou sont venus nous apporter tout leur soutien, etc. Donc c'était hyper, hyper intéressant. Et puis en termes de chiffre d'affaires, on ne va pas se mentir, cette fois-ci on a eu à rembourser personne, donc c'était une opération qui nous a permis de payer les pots cassés de la première édition où on avait déjà investi dans les t-shirts vierges, on avait déjà investi dans les timbres, les enveloppes, etc. Donc on avait quand même de la trésorerie qui était mobilisée et là ça nous a permis de sauver les pots cassés par rapport à la première édition, quoi.
Encore une fois, vous réussissez à rebondir après.
C'est ça, on essaye en tout cas. Mais là, ouais, c'est vrai que sur ce truc-là, on s'en est pas trop mal sorti. Je pense que ouais, ça a été les grandes étapes de la marque. Et puis la dernière grande étape, ça a été l'ouverture de la première boutique en nom propre de la marque Brest Club. Où là, c'était un gros pari pour nous de se dire est-ce qu'une boutique peut vivre avec uniquement des produits Brest Club. Donc on l'a ouvert la porte à côté en juin. Donc elle est toujours aux 12 rues du Chapitre, comme c'est la même adresse que notre première boutique. Puisque c'est le même bâtiment, mais c'est deux vitrines différentes. Et pour l'instant, c'est pari réussi.
En fait, cette première boutique, on ne l'a pas ouverte. Maëlys l'aurait peut-être ouverte, puisque c'est elle, la feu follet dans l'histoire, mais l'aurait peut-être ouverte comme ça sur un coup de tête. Moi, j'étais plus réservé. Et en fait, on a quand même du recul, parce qu'aujourd'hui, on a 25 distributeurs de la marque en Bretagne, qui ne cessent de s'accroître. On avait testé sur des pop-up en bord de mer les deux étés précédents. un à Perros-Guirec et un au Val-André. Donc on savait que les produits marchaient sur une saison. En revanche, on avait plus de doutes sur...
Ouais, à l'année, c'est plus compliqué.
Même si Grammage se posait comme un distributeur, il y avait d'autres produits qui pouvaient, eux, attirer de prime abord le client dans la boutique. Est-ce que les simples produits Brest Club allaient attirer les clients toute l'année?
Ouais, puis suffirait à générer un chiffre d'affaires suffisant pour faire vivre une boutique. C'est quand même des charges à l'année qui sont hyper importantes. Donc, on n'avait pas cette certitude-là. Et puis, on a eu l'opportunité d'un local qui se libérait. Et puis on s'est dit, feu, on y va et puis on verra bien. Et pour l'instant, voilà, le bilan est hyper positif et on est hyper content de voir qu'effectivement, une boutique avec uniquement des produits Brest Club est capable de vivre et de fonctionner.
Okay. Voilà. Bilan positif.
C'est la dernière grande étape, entre guillemets, de la marque. Quoi.
Pour le moment.
Pour le moment, ouais, c'est ça.
Il y a une autre étape, mais qui arrive dans 3 jours, en fait. On ouvre une boutique à Brest, boutique Brest Club, pareil à l'année. Donc rien de saisonnier.
Sur le même concept que ce qu'on a fait à Rennes, vraiment que des produits Brest Club. Et puis on va voir. Bon, a priori, pareil, on a bien étudié le marché, donc on sait ce qu'on fait. Mais voilà, c'est la prochaine grande étape.
Ok. Et donc aujourd'hui, niveau stats, vous êtes à combien de chiffre d'affaires? Vous êtes combien dans la société?
Alors, combien on est dans la société?
On est à temps plein 6. Ouais. En fonction de la saisonnalité, on varie entre 8 et 10.
Ouais.
Temps fort vraiment de la saison d'été, on est 10 parce que pour nous, c'est une grande étape de l'année, l'été, puisque comme disait Mathias, on a beaucoup de distributeurs, donc il y a une production qui est plus importante à ce moment-là. Donc effectivement, à ce moment-là, on embauche vraiment en extra. Et puis en termes de chiffre d'affaires, alors si je ne dis pas de bêtises, on a 3 ans, vraiment, on a 3 ouais. bilans complets. On a démarré à 65 000 euros la première année. On est passé à 255 000 la deuxième année. Et aujourd'hui, on est à 550 000 okay. voilà, sur le dernier bilan. Et puis, on espère que ça va continuer comme ça sur le prochain.
Carrément. Et donc, après cette partie histoire, on va parler rencontre et inspiration. Sur la partie rencontre, est-ce que vous avez eu des rencontres qui vous ont permis de franchir un cap dans votre business?
Alors, des rencontres entrepreneuriales, en fait, c'est tout bête, hein, mais c'est dans mon entourage plutôt.
Ouais.
Contrairement à l'entourage que j'ai aujourd'hui, je ne suis pas entrepreneur dans l'âme. C'est plutôt l'idée qui m'a amené à l'entrepreneuriat. C'est le constat qu'il y avait peut-être une patte qui pouvait trouver sa cible dans le milieu du prêt-à-porter breton. Donc en fait, c'est plus mon entourage qui m'a inspiré, c'est-à-dire un pote qui a un food truck. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'était trop compliqué. Lui, à son échelle, me rassurait en me disant « Mais t'inquiète, tu peux y arriver. Regarde, moi, j'y connaissais rien non plus. Et aujourd'hui, je suis même obligé de faire un peu de compta, faire un peu de gestion. » Donc voilà. Il y a eu aussi Maëlys, parce que quand même, c'était un... c'était plus facile, je pense que si j'avais été tout seul, célibataire, pas épaulé, pas accompagné, je pense que je ne me serais pas lancé. Il y avait ça, et puis après il y a eu toutes les rencontres qui ont été plus au démarrage de la société, où là ça a été des amis qui aujourd'hui sont proches, et voilà, aujourd'hui je pense qu'on a sur Rennes, on est très bien entouré et quasiment que d'entrepreneurs jeunes, dynamiques, innovants. Mmh. Et ça compte parce que ça booste au quotidien, parce qu'on a les mêmes problématiques.
C'est une entraide aussi générale. C'est vrai qu'on se rend compte que notre groupe d'amis historiques, ce n'est pas du tout des entrepreneurs. Et effectivement, on n'est pas forcément compris sur les problématiques qu'on vit au quotidien. Le fait là aujourd'hui de s'être créé un cercle d'amis proches sur Rennes qui sont dans ces problématiques-là, c'est un vrai booster au quotidien et c'est une entraide générale. C'est-à-dire que nous, on a à apporter aux autres. Et effectivement, ces amis-là nous apportent leurs compétences et leurs expériences aussi. Donc, c'est pas une personne en particulier, mais effectivement, là, c'est de créer un petit vivier d'entrepreneurs autour de nous, c'est une grande force. Et aujourd'hui,
c'est des rencontres qui sont arrivées au bon moment, je pense, parce qu'en fait, quand on a lancé la marque, on va pas se mentir, ça va être même un peu violent. Les amis qu'on avait de l'époque, qui sont toujours nos amis, notre famille, on va pas se mentir, même si certains faisaient bonne figure, je pense que peu de monde y croyait. Peut-être qu'ils pensaient que voilà, ça allait vivoter un moment, mais que sur le long terme, ça avait pas, c'était pas viable. Mmh. Et en fait, on s'est rapproché de Glenn Vigouroux pour un shooting, tout bonnement. Mmh. Et du coup, en fait, il a commencé à nous, je sais pas comment le formuler, mais en tout cas, voilà, il nous a amené à faire d'autres rencontres. Et ces gens-là, en fait, ils comprenaient ce qu'on vivait et ils comprenaient toutes les problématiques auxquelles on pouvait faire face. Et donc, du coup, ça nous a permis de nous rassurer et de nous tirer vers le haut.
Ouais, c'est ça. Et puis, ensemble, s'accrocher ouais. aussi sur les projets, ouais.
Ok. Et niveau inspiration, donc là, je parle pas du réseau personnel, mais ouais. qui sont les gens qui vous inspirent aujourd'hui ? Ça peut être des créateurs de marques, je sais pas, des entrepreneurs, ouais. Des artisans, je sais pas. C'est...
Tu veux répondre ?
Non, vas-y, je te laisse.
Okay. Alors, franchement, moi, je sais que c'est pas des références qui plaisent forcément à
c'est
tout
le
monde.
C'est pas grave.
Ouais, non, mais vraiment, et je les assume complètement. Moi, je suis une très grande admiratrice de Caroline Receveur. Mmh. C'est une nana qui a démarré en faisant de la télé-réalité. Aujourd'hui, elle a clairement bâti un empire en France grâce à son influence. Et voilà, moi, je trouve que c'est un très beau parcours. Elle est extrêmement critiquée, effectivement, mmh. parce que c'est une influenceuse qui est très suivie. Et comme
beaucoup,
je pense,
d'influenceurs.
Beaucoup d'influenceuses, elles ne sont pas forcément comprises. Mais je trouve que voilà, c'est une nana qui est partie de rien. Et aujourd'hui, ce qu'elle a créé, c'est assez impressionnant. Donc pour moi, c'est clairement un exemple, à suivre, même si je sais que beaucoup ne seront pas de mon avis. après, bah, effectivement, moi, je suis une grande friande de podcasts d'entrepreneurs, mmh. etc. Donc, de façon générale, il y en a énormément qui m'inspirent. Après, un plus qu'un autre, pas forcément. Je sais pas, toi, Matt, si t'as...
Non, il y a forcément la marque, bah, le slip français.
Ouais.
Qui, voilà, c'est quand même un exemple parce que c'est pareil, c'est à Paris. En mmh. fait, moi, je me retrouve un peu dans l'histoire de la création de sa marque, c'est que c'est un pari. Mmh. Et c'est, mais après, ouais, j'ai pas d'idole ou de référence. En fait, c'est un peu tout, quoi. En fait, on est je pense tous les deux consommateurs via les réseaux sociaux de jeunes marques, mais des marques même qui peuvent être passées inaperçues et inconnues. Par contre, ils ont la bonne idée de communication. Ouais. Et donc ça génère en toi une idée que tu peux appliquer, par exemple, à ta propre activité, ou ça peut être un produit qui n'a jamais été fait pour la Bretagne, et tu te dis, bah, c'est bête, pourquoi pas le faire, ou lui donner un
ouais, clairement, peps. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, je pense que c'est vraiment notre plus grande source d'influence, que ce soit les personnes qu'on suit, ou les produits, ou les stratégies de communication qu'on peut voir passer.
Mais on n'a pas un bench, enfin, on n'a pas un bench qui est figé et qui nous suit depuis 3 ans. Clair. En fait, c'est ce qui passe, et voilà, je pense que la meilleure prise de notes, c'est le screenshot, et puis on s'en rappelle quand on crée la collection,
ça,
on s'en rappelle quand
et...
on doit faire une opération. Ouais.
Voilà.
Ok. Et maintenant, on va parler d'entreprendre quand on est en couple.
un sujet
important, puisque vous êtes marié.
Ouais, c'est
quoi les avantages, les inconvénients de travailler quand on est... Enfin, d'entreprendre quand on est en couple.
Alors, je pense que les avantages et les inconvénients dépendent de chaque couple. Notre inconvénient à nous, en tout cas personnellement, je pense que ça a été nos deux très forts caractères, l'un comme à l'autre. Je pense qu'il n'y en a aucun de nous deux qui s'écrase face à l'autre et que ça peut parfois monter dans les tours. Après, notre très grande force, c'est qu'on se connaît par cœur, que quand il y en a un qui flanche, ben, l'autre est là. C'est beaucoup plus facile quand on a une relation intime comme la nôtre que quand on est deux amis. Ou voilà. Donc, on sait se soutenir, on sait se rebooster, on connaît l'autre, ses failles, ses faiblesses, ses forces, et donc c'est beaucoup plus facile d'en tirer parti.
Elle a l'air hyper sereine aujourd'hui sur ce qu'elle peut dire. Je peux t'assurer que c'était pas du tout le cas au départ. En fait, au départ, c'est très très compliqué, on va pas se mentir. Même si sur le papier, on était très complémentaires.
Ouais.
Là, je mets vraiment de côté le côté intime. Mais par rapport à nos études, par rapport à nos bagages professionnels, on était très complémentaires. Elle pouvait gérer l'image, elle pouvait gérer les réseaux sociaux. Moi, j'y comprenais pas forcément grand-chose.
D'ailleurs, il y comprend toujours rien.
Moi, j'étais plus sur la partie créa, sur la partie chiffres, entre guillemets, à la base. Donc en fait, quand elle me dit qu'elle va me rejoindre, je veux pas parce que j'ai peur de ce qui peut nous arriver. Mais par contre, je sais que sur le plan professionnel, ça va être une force. Après, elle arrive et c'est difficile, même si ça faisait que 3 mois que j'étais tout seul. C'est difficile de lui faire une place, de lui dire t'as l'impression en fait qu'elle connaît rien, t'as l'impression que c'est pas
c'est vrai, hein, c'est... que tout ce que je faisais, je le faisais mal à voilà, ses yeux. Alors, je savais très bien que je le faisais correctement. Effectivement, je le faisais pas forcément de la même manière que lui, mais ouais. Je pense que le fait qu'on n'ait pas démarré ensemble, il a pris une petite longueur d'avance et j'ai eu du mal à m'intégrer parce qu'il avait mis ses process en place et qu'il fallait pas que ça change. Alors qu'il y avait des trucs qui me paraissaient illogiques au possible que je voulais justement changer, mais bon, c'est un peu c'était un peu compliqué.
Ouais, il fallait un peu s'apprivoiser au niveau de l'organisation.
Et puis vivre ensemble, on habitait déjà ensemble, etc. C'est pas pareil que travailler ensemble, où on a chacun des habitudes de travail différentes, des besoins différents. Et puis ça veut dire aussi que c'est vivre 24 heures sur 24 ensemble. Et ça, c'est pas tous les jours facile parce qu'il faut réussir à mettre de côté la querelle qu'on a eue au boulot quand on rentre à la maison le soir. Et ça, franchement, ça n'a pas été évident. Moi, je suis une très grande rancunière. Donc, ce qui s'est passé la journée reste le soir, le lendemain, ça, le surlendemain. Et...
Je pense que c'était la plus grosse difficulté, c'est qu'en fait, elle dissocie pas du tout.
Ouais.
Pro et perso.
Ouais.
C'est-à-dire que c'est quasi impossible de différencier pro perso.
Moi, je pense que j'y arrive bien.
Toi, tu y arrives plus. Après, là où on a une difficulté supplémentaire, c'est que on travaille comme des acharnés. Donc, c'est-à-dire qu'on se levait à 5h le matin pour rentrer à 23h le soir. Mm. Donc, la limite, la frontière entre le pro et le perso, elle existait déjà quasiment pas. Donc, c'est difficile de la marquer encore davantage. Ça a été quand même une problématique. Et puis, quand on travaille autant, ça ajoute à ça la fatigue. Le ras-le-bol, donc on a moins de patience, donc voilà. C'est vrai qu'il y a eu, on va pas se cacher, on a quand même traversé des moments qui étaient plus compliqués, de se dire mais on n'arrivera pas à travailler ensemble sur le long terme, ça va pas le faire. Et puis finalement on se rend compte que c'est des habitudes à prendre, c'est avec le temps qui passe, on apprivoise les méthodes de l'autre, on sait ce qu'il faut dire, pas dire, faire, pas faire. Et, puis,
et c'est la confiance aussi, un peu comme dans un couple au final, c'est de se dire que... Moi, j'ai tendance à vouloir un peu être omniscient au sein de ma société, ce qui n'est pas forcément une bonne chose, parce qu'en fait, au final, déléguer, faire confiance, c'est, je pense, les deux grosses problématiques de mon côté entrepreneur. Je ne passe pas derrière tout le monde, mais ça va passer par des petites questions. Est-ce que tu as fait ça? Est-ce que tu as bien fait ci? Comment tu as fait ça?
Tu as envie de tout maîtriser aussi, peut-être.
C'est ça. En fait, j'ai du mal encore aujourd'hui. En fait, on a grandi en très peu de temps. En l'espace d'un an, on est passé donc de 2 à 6 et 10 au pic. Donc, c'est compliqué en fait, de se dire est-ce que le travail va être aussi bien fait que quand c'était moi qui le faisais. Il y a
sauf
tout ça.
Que le fait qu'il pose la question à un salarié, ça ne me dérange pas. Le fait qu'il me pose la question à moi, ça me dérange. Donc effectivement, on a eu quelques petites querelles là-dessus. Après, c'est effectivement, je pense que le secret, c'est de la confiance. Et c'est effectivement arriver à se dire que la personne qui nous énerve au boulot, c'est pas la personne à qui on doit s'en prendre le soir en rentrant à la maison. Et donc voilà, faut arriver à dissocier les deux, même si c'est clairement pas facile.
Paradoxalement, c'est plus facile maintenant que l'activité bat son plein, parce qu'avant on a le temps en fait d'aller checker, d'aller entre guillemets fliquer. Là aujourd'hui, j'ai pas le choix que de faire confiance mais à tout le monde. Que ce soit ma femme, que ce soit mes salariés, mes collaborateurs, j'ai pas le choix parce qu'aujourd'hui, il faudrait des journées de 48-72 heures pour que je puisse faire le tour de tout ce qui se passe au sein de la boîte.
Ouais.
Donc c'est vrai que là maintenant, c'est plus serein aussi. Une fois que tu l'acceptes, t'es plus détendu et puis et les querelles, elles sont de plus en plus anecdotiques, quoi.
Et puis surtout avec le recul, je me dis que les choses n'auraient pas pu être différentes parce que j'imagine si Mathias avait vécu ça tout seul et que moi j'avais eu un boulot de salarié, je pense que notre couple n'aurait pas pu tenir parce que c'est un investissement de chaque minute. On vit Brest Club, on dort Brest Club, on mange Brest Club. Et je pense que pour le compagnon qui reste à côté et qui n'est pas impliqué à 100% comme moi je peux l'être dans le projet, ça le fait pas. Honnêtement, je pense que c'est très compliqué et je suis pas sûre que ça aurait pu tenir. Je pense que la boîte aurait pris le dessus sur...
En fait, je pense que si t'es pas en couple, enfin, dans ce cas de figure, en tout cas, dans ce qui nous représente, si j'étais pas en couple et que je travaillais pas avec Maëlys, je pense que quand je rentre le soir, j'aurais pas envie de lui expliquer les choses. Et elle aura besoin de cette explication, pourquoi t'es pas là ce week-end, pourquoi tu bosses encore là, pourquoi tu rentres tard. Et en fait, t'as pas envie de parler, t'as envie juste de te poser dans le canapé, souffler une heure et puis aller te coucher. Et c'est vrai que... le fait qu'elle ait toutes les cartes en main parce qu'elle vit les mêmes choses que moi, en fait, ça simplifie les choses parce qu'on n'a pas, on n'a pas à se le dire, quoi.
On n'a pas à s'expliquer.
On n'a pas à se le dire. Et c'est
la même chose. Et je pense que c'est ça qui est important à prendre en compte quand on monte une boîte seule et qu'on est en couple. C'est, mine de rien, de prendre en considération l'autre et le fait que, n'étant pas dans la structure, il ne peut pas savoir ce qui se passe et qu'il a besoin, effectivement, d'explications, surtout quand ça prend autant de place dans la vie de l'autre. Et, et ça, là-dessus, on a eu d'autres difficultés, mais pas celle-là.
Ok. On va parler conseils maintenant. Quels sont les conseils que vous donneriez à un entrepreneur qui veut créer une marque de fringues?
Alors moi, que ce soit marque de fringues ou pas marque de
fringues... Pas bretonne, en tout cas.
Ouais, c'est ça. le conseil que j'aurais envie de donner, c'est déjà de croire en son projet malgré tout ce qu'on peut entendre. Il y aura toujours des gens pour dire « c'est pas une bonne idée, c'est pas le bon moment ». Il y aura effectivement... C'est ce que je dis souvent, les feux seront jamais tous au vert en même temps pour se lancer, mais si on se lance pas, on saura jamais. C'est un peu la décision que j'ai prise quand j'ai refusé le CDI contre l'avis de tous. C'était de me dire, moi j'y crois et je vais prouver que c'est possible. Et je pense que ça, c'est un des meilleurs conseils que je peux te donner, c'est croyez en votre projet. Et oui, écouter les autres, c'est important, mais s'écouter soi, ça l'est tout autant, voire plus. Et ça, c'est pour moi très très important. Après, un conseil qu'on donne à toutes les marques de prêt-à-porter qui viennent nous voir, c'est effectivement, on veut toujours faire le produit le moins cher possible. C'est ce que nous, on a essayé de faire avec Press Club. Mais un produit pas cher, c'est souvent un produit de mauvaise qualité. Et donc, le problème, c'est que les gens achètent une fois, mais ils ne rachètent pas deux fois. Et c'est ce qui fait qu'une marque ne peut pas durer dans le temps. C'est que si toutes les ventes sont one shot parce que le produit est de mauvaise qualité, c'est pas une marque qui va pouvoir perdurer. C'est le constat qu'on a fait très vite et heureusement on a su très vite switcher et passer sur du produit de bonne qualité. Et ça, c'est un conseil qu'on donne, c'est arrêter de vouloir faire du pas cher, parce que du pas cher, ça dure pas dans le temps et ça donnera pas une bonne image de votre marque.
C'est clair. Moi, je vais rebondir justement sur les conseils pour les créateurs de marques. On en voit passer du coup chez Atelier Grammage, qui est notre entité de personnalisation textile. Et c'est vrai que bien souvent, les gens ont l'impression que le visuel prime sur le concept. Et dans le milieu de la fringue et de la marque de t-shirt, sweat, de produits, on va dire, classiques, c'est plutôt le concept qui va primer. Tu peux avoir un visuel qui est peut-être un petit peu moins beau que ton voisin. Par contre, si tu as un concept, c'est toi qui feras la différence, c'est toi qui va percer au niveau du marché. Aujourd'hui, des petits jeunes qui viennent en se disant je vais être le nouveau Walk in Paris ou ce genre de marque, j'en vois tous les jours. Et c'est vrai qu'en fait, ils ont du talent, ils dessinent très bien, ils ont un côté affirmé dans leur création. C'est des gars qui assument aussi leur des gars ou des filles d'ailleurs, qui assument leur style. En revanche, ils sont noyés dans la masse parce que tout le monde a les mêmes influences. En revanche, la personne qui vient avec un concept et qui n'a pas forcément ses visuels sur la table, qui me dit moi je veux faire un truc par exemple éthique, je veux que je veux me positionner sur les éléments naturels. C'est une marque récente qu'on accompagne et en fait qui lui en fait reverse chaque mois une partie de son bénéfice à une association, donc il se met en relation avec cette association là. Il y a toute une communication qui est dédiée par moi. Donc en fait, le produit, c'est plutôt un prétexte pour mettre en avant une association, des valeurs qui lui sont propres. Et au final, ces produits se vendent. Et se vendent bien plus que le nouveau Nike ou le nouveau Adidas.
Disons que c'est facile de vouloir monter une marque de prêt-à-porter, mais ça se travaille. Et effectivement, un concept primera...
C'est clair.
Enfin, permettra
c'est
de faire
pas juste du design sur du textile.
C'est pas juste
quoi,
parce clairement. Qu'on a fait un beau dessin qu'on va réussir à créer une marque. Et ça, on en est le premier.
Je pense qu'il y a, il y a 15 ans, je pense que c'était le cas.
Ouais.
Aujourd'hui,
parce qu'en fait, c'était
plus complexe aussi.
C'était plus complexe en fait de créer. C'était je pense que c'était plus coûteux, plus complexe de trouver les bons intermédiaires pour pouvoir faire aboutir le projet. Aujourd'hui, grâce à des imprimeurs comme nous, grâce à des solutions sur Internet, tu peux facilement faire ton t-shirt personnalisé et lancer ton petit business. Bien souvent, comme j'appelle ça, ils y vont au noir entre guillemets, quoi. Mais avec l'auto-entreprise aussi, ça a facilité les choses. C'est-à-dire que les gens peuvent se faire un à côté grâce à ça et peuvent tester surtout. Et donc aujourd'hui, voilà, il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines de marques qui se créent tous les jours, qui auront une durée de vie plus ou moins longue en fonction de la motivation de la personne qui l'a créé. Mais de percer, c'est, voilà, il y en a très peu.
C'est clair.
Et enfin, moi, j'ai, je pense, deux derniers conseils à donner. Un qui nous sert aujourd'hui au quotidien, c'est de très bien s'entourer dès le départ de professionnels. Nous, on est des professionnels de la création graphique et de la communication. Typiquement, toute la partie comptable, c'est quelque chose qu'on ignore, enfin voilà, qu'on connaît très mal. Et on a fait le choix, une fois qu'on avait décidé de lancer la marque de manière professionnelle, de s'entourer d'un cabinet comptable qui aujourd'hui est un conseil au quotidien dont on ne peut pas se passer. C'est-à-dire que nous, on n'a pas le temps de faire la comptabilité, d'analyser les chiffres constamment. Et pourtant, c'est ce qui fait vivre une boîte. Et on est très content aujourd'hui d'avoir un cabinet comptable qui, au-delà de la partie comptabilité, est aussi un très bon conseil de développement, d'investissement, etc. Donc ça, je pense que bien s'entourer de professionnels, c'est des métiers qu'on n'apprend pas comme ça, la comptabilité. Et autant voilà, devenir commerçant, bon, bah, ça s'apprend et voilà, on apprend petit à petit. Il y a quand même des métiers où il faut savoir s'entourer et pas se dire « j'en ai pas besoin ». Parce que mine de rien, tout ce qui est démarche comptable, administrative, etc., c'est extrêmement lourd et ça prend un temps fou. Donc, il faut aussi savoir le déléguer.
En fait, il faut savoir que quand tu deviens entrepreneur ou que tu veux lancer ton truc, c'est que tu as une valeur ajoutée. Cette valeur ajoutée, elle est certainement pas dans la comptabilité, dans l'analyse des chiffres. Donc, choisir son comptable, je pense que c'est, voilà, sur ton, quand tu fais ton business model, tu peux questionner, ça peut te prendre 3-4 jours, c'est pas très grave, mais d'aller rencontrer les comptables, parce qu'il y a des comptables qui vont, eux, juste voilà, te rendre ton bilan, faire les démarches administratives moyennant finance et basta. Et d'autres cabinets comptables qui aujourd'hui ont une vision plus moderne des choses et qui vont.
Conseils.
Voilà, qui
c'est
vont.
Ça. Et honnêtement,
ça va être un collaborateur, ouais.
Toutes les grandes étapes, nous, qu'on a vécues dans la société, ça nous a été très fortement conseillé ou en tout cas à chaque fois validé par notre cabinet comptable. Et jusque-là, ça n'a jamais été une erreur. Donc ça, je pense que vraiment, c'est important de se dire qu'il ne faut, il faut pas chercher à faire tous les métiers dans une société. Il y en a qu'on ne maîtrise pas et ce n'est pas grave.
Chacun son expertise aussi.
C'est ça, hein, voilà. Ça, c'est important. Et ensuite, je pense que la dernière qui revient sur tout ce qu'on a dit, c'est qu'il arrive parfois dans la vie d'une société des difficultés auxquelles on ne s'attend pas du tout, qui nous mettent complètement à terre. C'est ce qu'on a vécu, je pense, avec le Brésilou, et de se dire que rien n'est définitif, qu'il y a toujours une manière de rebondir et qu'il ne faut pas abandonner, il ne faut pas lâcher. Et voilà, il y a toujours des solutions, on a toujours des gens pour nous aider. Nous, c'est ce qu'on a cru. Hein. On a cru que tout allait s'arrêter et à chaque fois, on a su rebondir. Aujourd'hui, bon, il y a certainement d'autres galères qui vont nous arriver, mais voilà, il faut pas se laisser bouffer,
ouais,
il faut pas se laisser miner, il faut, voilà, arriver à prendre du recul, se dire que rien n'est jamais catastrophique et qu'on arrivera toujours
et
à
puis rebondir. c'est la vie du chef d'entreprise, en fait. Je pense que être chef d'entreprise, c'est être capable de résoudre les problèmes.
C'est ça.
C'est ni plus ni
plus
moins,
ou moins
en fait.
Grave selon ni plus les ni mois moins. Mais bon,
plus ou moins rapidement.
C'est ça, voilà. Mais okay. Globalement, ça fait partie du jeu. Il faut pas se démoraliser dès qu'il y a une petite difficulté, parce que sinon on n'avance pas.
Très bien,
voilà.
Avant dernière question, c'est quoi la suite pour Brest Club et c'est quoi la suite pour vous ?
Alors,
bah déjà Brest Club, en fait, voilà, je pense qu'on est au tout début, je l'espère, d'une belle aventure. Et donc en fait,
parce que ça fait 3 ans.
Ça fait 3 ans, voilà. Donc c'est vraiment tout récent. On a l'impression que, alors parfois il y a des jours, on a l'impression que ça fait des années,
ouais.
Et d'autres que c'est tout neuf. Non, c'est de, pour l'instant, voilà, c'est, on ouvre Brest. Dans une semaine,
ouais.
Après on s'arrête là sur,
okay.
les boutiques physiques,
ouais.
Parce que c'est, voilà, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'organisation.
Puis Brest et Rennes, c'est les deux grandes villes en
c'est
Bretagne.
Ça,
c'est
voilà.
Ça, voilà, pour l'instant. Après, voilà, en tout cas pour à court terme ou moyen terme, il n'y a pas d'ouverture de boutique de prévu. Parce qu'aujourd'hui, on a un beau réseau de distributeurs.
Mmh. Ça nous permet de couvrir quand même
ouais.
Une grosse totalité du territoire breton, et surtout comme on va pas se mentir, sur la côte c'est des activités très saisonnières, ouvrir une boutique à l'année ça n'a pas d'intérêt, donc on préfère s'appuyer sur un réseau de distributeurs qui positionne nos produits au bon moment, et ça nous suffit largement.
Et puis bah, continuer dans ce développement d'image de marque accentué sur bah, voilà, la mode et la Bretagne, en fait on n'est pas, parce que voilà, c'est la Bretagne qu'on est obligé de faire du ringard. Donc c'est continuer vraiment dans cette optique-là, en fait, d'aller s'inspirer de ce qui se fait dans une marque plus généraliste et de l'adapter à la sauce bretonne. Et je pense qu'aujourd'hui, on a réussi à affirmer une identité.
Ouais.
Mais un peu comme un enfant, elle ne cesse de grandir. Je pense que voilà, la collection que j'ai sortie il y a 3 ans, je ne sortirai certainement pas ça aujourd'hui. Mmh. Et avec un peu de recul, je me dis que c'était nul. Mais au final, ça fait partie du cheminement. Mmh. Et j'espère qu'on va cheminer encore comme ça longtemps.
Ça, l'idée, c'est de continuer à développer les gammes aussi. Parce que plus la boîte grandit, plus on a de trésorerie pour se permettre de développer des nouveaux produits. Et voilà, je pense que là, c'est tout le chemin qui nous attend. C'est de continuer à développer la marque pour la faire vivre le plus longtemps possible.
Très bien. Et dernière question. Quels sont les entrepreneurs que vous me conseillez pour des prochains podcasts ? Dans le milieu du textile ou peu importe. Hein.
question piège. Je suis en train de...
J'avoue, en plus, moi, j'ai une mémoire des noms qui est
ça peut être une marque,
très défaillante.
Hein,
ouais.
Qui vous intéresse ou...
Je suis vraiment nul à ce jeu-là.
Ouais, la question, j'avoue
la question
que...
piège.
Sur la dernière en plus, hein, t'es pas cool.
Il en faut bien une.
Non, moi je pense que quelqu'un qui. Ben, que nous on suit pas mal parce qu'on connaît personnellement, je dirais studio vraiment sympa. Parce que, aujourd'hui, que ce soit eux dans la création, le développement de leurs propres activités ou dans l'accompagnement et la valorisation des acteurs rennais, je trouve qu'ils ont un champ qui est hyper complet.
Puis encore un couple qui entreprend.
C'est ça, encore un couple qui entreprend, qui certainement ont d'autres difficultés que nous.
Non, et puis je pense qu'ils ont une approche qui est complètement différente
ouais,
de la nôtre. Et je pense que voilà, ça peut...
Et puis multi-activités, multi-projets, multi-tâches, multi-compétences, voilà. Donc, je pense qu'il y a matière à tirer des bonnes informations.
Très bien. Bah, merci à vous deux pour.
Merci
grand plaisir
de nous avoir accueillis,
reçus et écoutés si longuement.
Exactement. Et puis à bientôt sur Serial Entrepreneur.
À bientôt.
À bientôt.
Ciao.